Romains chapitre 8, les versets 8 à 11. L'épître de Paul aux Romains chapitre 8, versets 8 à 11. Au nom de Jésus. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, alors, bien que votre corps soit destiné à la mort à cause du péché, l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de Dieu, qui a ramené Jésus de la mort à la vie, habite en vous, alors celui qui a ramené le Christ de la mort à la vie donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Ce type de texte, chers amis, fait le bonheur des personnes que j'appelle les piétistes. Les piétistes, oui. Qui sont ces piétistes? Les piétistes sont les personnes, on va dire, qui ont suivi le courant religieux piétisme, bien sûr, appelé aussi à l'époque la Seconde Réforme. C'est un courant qui est apparu à la fin du XVIIe siècle. En gros, leur doctrine des piétistes, c'est d'améliorer le genre humain par l'amélioration des valeurs religieuses intérieures par un acte de renaissance spirituelle qui est censé transformer radicalement l'homme pécheur. Et il existe beaucoup de chrétiens qui sont attirés par ce genre de courant, même sans le savoir, ils sont des piétistes. En gros, dans leur objectif à eux, ces piétistes, il faut tordre le corps, il faut faire mal au corps pour que le spirituel puisse prendre de la place. Voilà, en gros. Est-ce cela le message de l'Évangile? Faire mal au corps, tordre le corps pour que le spirituel puisse s'épanouir. Si nous faisons une lecture superficielle ou diagonale du texte que nous avons ce matin, il semblerait, je mets bien au conditionnel, il semblerait que Paul met en dualité le corps et l'esprit dans son épître. Beaucoup pensent que Paul met en opposition le corps et l'esprit, ce qui n'est pas du tout le cas. La raison qui, je pense, qui pousse certains lecteurs de Paul à penser cela, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte d'un jeu de mots que Paul utilise dans ce texte. Regardez bien, si vous lisez attentivement, il jongle le mot « corps » avec « chair ». Ce sont deux choses différentes. Pour Paul, le corps est bien, puisque le corps, c'est Dieu qui l'a créé. En évoquant ce corps physique qui doit être vu comme une bonne chose. Pour Paul, c'est clair. Et ce corps physique que nous avons là, devant nous, il l'appelle en grec le « soma ». De là que nous avons, par exemple, le terme psychosomatique, comme on dit, c'est-à-dire que le corps, le soma. Tandis que lorsqu'il parle de la chair, Paul, il emploie le mot en grec « sarx », la chair. Et la chair ici, c'est une force dominatrice alimentée par le monde et le mal avec grand M qui rend assujetti le corps. Donc c'est un esprit du monde qui domine le corps, qu'est la chair.
Donc, à partir d'aujourd'hui, ne confondez pas le mot chair et le mot corps dans la bouche de Paul. Donc, cette thématique est largement expliquée dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, si vous avez le temps de le lire chez vous. Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Si on se penche un peu dans ce texte des Galates, il est assez clair que la chair n'a rien de corporel. La chair, c'est un esprit. Je dis bien, la chair, c'est un esprit. L'esprit du monde qui veut dominer le corps que Dieu a créé et qui veut l'assujettir. De ce fait, la première chose qu'il faut tenir compte pour aborder notre péricope d'aujourd'hui, c'est de tout de suite enlever de notre tête que la chair ici n'est pas du tout le corps. Ce qui implique que Paul ne nous appelle pas à haïr notre corps. Paul ne nous appelle pas à maltraiter le corps, même si nous sommes des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, puisque comme la chair est un esprit, ici alors dans ce texte, il n'est pas du tout question de combat du corps et de l'esprit. Ce n'est pas du tout le cas. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à combattre le corps, mais nous sommes appelés à combattre la chair. Donc c'est plutôt un combat entre esprits. D'un côté, l'esprit du monde, qui est appelé la chair, et l'esprit de Dieu, qui est bien souligné ici, cet esprit de Dieu qui a ressuscité le corps de Jésus d'entre les morts. Vous voyez que l'esprit de Dieu n'est pas en contradiction avec le corps. Alors ne faisons pas fausse route dans la compréhension du message de Paul. Il ne nous appelle pas à combattre le corps, au contraire. Il nous ouvre les yeux qu'il est possible de libérer ce corps que nous avons de l'emprise de la chair. Par conséquent, arrêtons de tirer vers le bas notre considération physique. Ce corps est une création divine. Et si vous lisez la Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu a vu que ce qu'il a fait est bon. Donc, ce n'est pas à nous d'essayer de la maltraiter. Jésus, s'il est venu dans le monde, il ne nous a pas seulement promis le salut spirituel, mais le salut total, y compris le corps. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être me dire, alors comment comprends-tu, pasteur, alors la phrase de Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, j'imagine c'est déjà une idée qui trottine dans votre tête, voilà ce qui est dit, « Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. » Oui, je prends en considération ce texte. Il n'est pas du tout question de rejet du corps, mais d'une restauration du corps. Et cette restauration n'est pas juste une sorte de réparation ou un simple embellissement de façade, comme il y a les gens qui font des travaux embellir. C'est vraiment une restauration changée carrément. Tout est nouveau, car comme dit Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il existe aussi une autre référence que les ultra-piétistes pourraient utiliser pour légitimer leur pratique ascétique, telle que dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois même disqualifié. » Et ça, c'est leur verset fétiche, comme on le dit, les piétistes. « Je malmène mon corps, dit Paul, je le traite comme un esclave. » Alors, qu'en pensez-vous, pasteur, de ce texte alors? Eh bien, Paul est bien conscient qu'il y a un combat que nous devrions mener tous les jours contre la chair, mes frères et sœurs. Oui, Et la chair, comme je l'ai dit au tout début, c'est l'esprit du monde qui veut utiliser notre corps pour son propre service. Oui, Paul est conscient de la réalité de la vie chrétienne. Et c'est quoi cette réalité? Tout en étant enfant de Dieu, notre nature pécheresse ne disparaît pas. Elle est toujours là, même si tu es enfant de Dieu. Et dans le concret, Paul nous fait une description précise dans l'épître de Paul au chapitre Romain, l'épître de Paul au Romains chapitre 7, que je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et c'est ça le combat spirituel. À cause de cette tension permanente entre notre nature de pécheur et notre nature enfant de Dieu, oui, Paul appelle les enfants de Dieu à se lancer dans ce qu'il appelle le combat de la foi. Et là, c'est le combat entre deux esprits, l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit, et l'esprit de la chair, l'esprit du monde qui est la chair. Bref, ce que Paul veut nous faire passer dans son message aujourd'hui, c'est que le croyant, il est en permanence entre deux chaises. Son salut est déjà assuré en Jésus-Christ, cela, il n'y a pas de problème. Mais notre corps, il n'est pas encore dans son accomplissement. Il attend encore le jour de la rédemption. Et ce moment ne sera plus le temps de savoir si je serai sauvé ou pas. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour être sauvés, mais nous sommes là pour se préparer le jour de la rédemption. Là n'est plus la question, est-ce que je serai sauvé ou pas ? Ce que nous attendions tous avec grand soupir, en reprenant toujours une expression paulinienne, c'est le temps de la rédemption de ce corps. L'esprit est déjà en Christ, mais le corps, il subit toujours la souffrance. La preuve, ce que nous vivons aujourd'hui, les maladies, les souffrances, les problèmes que nous vivons tous les jours, c'est cela notre combat de tous les jours. Alors le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, ce Saint-Esprit-là joue deux rôles capitaux. Le premier, avant toute chose, l'acte d'adoption. Tu as été adopté enfant de Dieu. Et tout commence par là. Et puisque nous sommes enfants de Dieu par adoption, c'est-à-dire héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, c'est pourquoi en lien avec le statut d'héritier de Dieu, le Saint-Esprit qui a permis que l'adoption ait pu se faire, nous donne ce que Paul appelle les arts de l'Esprit. Arts de l'Esprit, A-R-H-E-S. Les arts de l'Esprit. Je l'explique un peu ce mot. Ce mot « art » est intéressant dans sa définition propre. Vous savez que les arts, c'est un terme tiré du domaine commercial ayant une valeur juridique. Pour mieux comprendre cela, je vais vous donner un exemple assez simple. Vous avez peut-être déjà réservé une maison avec votre compagne, votre famille au bord de la mer pour les vacances prochaines. Mais manque de peau, nous avons eu le coronavirus, ou bien une autre solution s'offre à vous, un changement de programme tout à coup. Or, vous avez déjà réservé une maison pour vos vacances. Alors le dilemme, que faire vis-à-vis du loueur? Si rien n'a été stipulé au contrat, les sommes payées d'avance sont des arts. Voilà les arts. Les sommes payées d'avance sont des arts, de telle sorte que vous n'êtes plus tenu que le loueur de mener à son terme votre contrat. Et c'est là que c'est très important de souligner ce terme « art de l'esprit », qui est peut-être un peu proche d'acompte, mais les arts et les acomptes, ce sont deux choses différentes. Il y a une grosse différence entre un art et un acompte. C'est qu'avec ce dernier, les acomptes, on est définitivement engagé et obligé de tout payer, contrairement aux arts. J'ai pris cette définition qui n'est pas la mienne, c'est une définition commerciale, officielle. Cette différence sémantique a une grosse répercussion dans notre façon de voir le salut et l'assurance du salut que nous avons grâce au Saint-Esprit. Ce qui implique tout enfant de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit a en ses mains déjà les arts de l'Esprit. Tu as déjà la réservation de ta place dans le ciel. Voilà ce qui implique. C'est pas parce que tu dois encore faire des efforts si tu pourrais y aller. Tu as déjà les arts de l'Esprit. Tu as déjà fait ta réservation. C'est-à-dire qu'il peut être, tu peux être sûr et certain, sans hésiter sur ton salut. Mais, vu qu'on a parlé de art mais pas de compte, cela ne signifie pas qu'il sera forcément coûte que coûte que tu seras au paradis. Ce que nous avons, c'est un art et non un acompte, comme je l'ai dit. Et pour simplifier encore l'explication, tu as reçu ton invitation pour assister à une fête quelconque, un mariage, un anniversaire. Ton nom est sur la liste des invités et donc tu fais partie de ceux qui peuvent entrer dans la salle de fête. Là, c'est sûr. Tu as ton laissez-passer. Cependant, si tu perds ton ticket ou tout simplement tu décides de ne pas y aller, alors à ce moment-là, ton ticket ne pourra pas te transporter jusqu'à l'endroit. Donc, voilà un peu un exemple. Entre le temps où nous avons reçu l'invitation pour vivre pleinement de notre salut plus tard, en tant que statut, en ayant le statut d'enfant de Dieu, et la réalité actuelle que nous vivons encore, c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Et quel est son rôle? C'est de nous conserver pour ce jour de rédemption. Est-ce que tu crois que c'est toi qui as la capacité de résister, d'endurance, de patience? Non. Si tu es encore debout, si tu es toujours dans la foi, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi non-stop. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Romains chapitre 8 qui le parle. Le Saint-Esprit qui prie pour nous par des soupirs inexprimables, 24 heures sur 24. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Conserver ce salut qui nous a été offert en Jésus-Christ. Rappelez-vous de la prière sacerdotale où Jésus avait prié pour les siens, dans Jean chapitre 17, verset 11. « Père, garde-les unis à toi, garde-les, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. » Alors, nous pouvons bien voir que tout est pure grâce, chers frères et sœurs en Christ. Le salut nous a été donné gratuitement. Ensuite, il nous donne les arts de la vie éternelle pendant notre attente ici-bas et il nous conserve pour le grand jour de la rédemption. Que le Seigneur te bénisse jusqu'à ce jour où nous serons devant lui libérés de l'esprit du monde, libérés de la chair. Amen.